Juste une petite explication avant de commencer la méditation. Nous avons parmi nous ici des visiteurs qui viennent des États-Unis et de l'Allemagne. Donc on a souhaité demander de faire la traduction après ma part, juste après la prédication. Le texte que nous allons prendre pour la méditation, c'est dans Ézéchiel, le chapitre 2, le verset 1 à 5. Ézéchiel, chapitre 2, verset 1 à 5, au nom de Jésus. Il me dit, toi l'homme, mets-toi debout, j'ai à te parler. Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout. J'écoutais donc celui qui me parlait. Toi qui n'es qu'un homme, dit-il, je t'envoie auprès des Israélites, cette bande de rebelles qui se sont révoltés contre moi, tout comme leurs ancêtres. Ils n'ont jamais cessé de me trahir. C'est vers ces gens à la tête dure et au caractère obstiné que je t'envoie. Tu t'adresseras à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Alors qu'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de le faire, parce qu'ils sont un peuple récalcitrant, ils sauront qu'il y a eu un prophète parmi eux. Amen. Chers amis, parfois les textes bibliques nous mettent dans des situations compliquées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la liturgie, j'ai utilisé un mot un peu difficile, mais qu'il faut l'assumer. Et vu l'évolution de la société où nous vivons, des mots qui ont été utilisés auparavant et qui n'avaient rien d'offensant deviennent aujourd'hui problématiques à l'oreille du public en 2018. Surtout pour ceux qui se déclarent humanistes et grands défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi je dis cela? Parce que notre péricope de ce matin évoque un terme qui pourrait déranger notre ouïe. Mais je ne sais pas si les traducteurs de la Bible ont déjà aussi fait ce travail d'exégèse pour éviter peut-être de froisser certaines sensibilités, mais je crois qu'il faut qu'on en parle dans notre méditation aujourd'hui. Par exemple, au verset 5, dans la traduction seconde, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une maison rebelle. Cette version a repris maison. Mais quand on parle de maison dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ça parle de la famille, du foyer et aussi, un peu plus grand, les ancêtres. Car c'est une engeance, dans une autre traduction, ou une race de rebelles, un peuple récalcitrant. Là, c'est plus précis. Vous voyez, on évite de prononcer le mot race car c'est un terme polémique, surtout comme aujourd'hui, comme je viens de le dire. Et même la France, qui a supprimé dans sa constitution ce mot race, à la demande des politiques. Le problème, c'est que ce mot a subi, je crois, une instrumentalisation sociale. Mais bibliquement parlant, ce mot a un sens plus profond, plus spirituel. Et qu'on le veuille ou non, bibliquement parlant, la notion de race est maintenue, mais ne va pas du tout dans le sens compris par les gens d'aujourd'hui. La Bible n'évoque pas l'extérieur quand on parle de race, couleur de peau, ni la taille, ni l'origine géographique. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Or, le mot race est compris dans ce sens aujourd'hui. La Bible ne tient pas compte aussi de l'origine géographique qui est beaucoup mise en exergue dans cette notion de race. La Bible est très claire. Oui, l'homme avec un grand H est classé sans exception d'engeance mauvaise. Et je sais que ce n'est pas évident d'entendre ces mots qui sont très durs, mais c'est ce qui est écrit. Mais si nous lisons bien le texte que nous avons, l'explication est là. Déjà au verset 1, quand l'Éternel s'adresse à Ézéchiel, son prophète, comment il le nomme ? Fils d'homme. Il ne dit pas fils de l'homme, parce que ça c'est le titre qui a été attribué à Christ. Fils d'homme, littéralement descendant d'Adam. En d'autres termes, celui qui vient de la poussière. C'est ça notre race. Nous venons de la poussière. Et si nous lisons la description donnée par Job, voilà comment il le décrit. Beaucoup de théologiens n'aiment pas ce verset. Parfois, ils disent qu'il fallait enlever ça dans la Bible. Mais moi, je le maintiens. Job, chapitre 25, verset 6. Que dire de l'homme, ce ver, ce fils d'Adam, cette larve? Oui, Job 25, verset 6. Donc, le mot race ici n'est pas du tout un terme avec un sens d'hiérarchie. Il met plutôt un accent sur notre valeur morale, notre vraie identité, qui n'est autre que rebelle. Voilà. Pécheur. Et c'est ce que l'Éternel a mis en garde à Ézéchiel. À qui il aura affaire? Tu sais à qui tu auras affaire? Je vais t'envoyer vers ces gens-là. En quelque sorte, il rappelle à son serviteur qu'il n'était pas le premier à être victime de l'attitude de ce peuple, car il n'a cessé de se rebeller contre l'Éternel. Et ce matin, je suis désolé, chers frères et sœurs en Christ, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis navré de vous dire que l'anthropologie biblique, elle est réaliste, elle dit les choses telles qu'elles sont. Cela peut choquer, oui, certes, même moi, j'en fais partie, parce qu'on veut toujours entendre que l'homme est bon de nature. Il n'est pas du tout mauvais, comme on dit. C'est l'environnement, c'est la société qui l'a corrompu. Et aussi ce fameux discours, je crois en l'homme, en sa générosité naturelle. L'idée de Jean-Jacques Rousseau. Mais déjà entre eux, les philosophes, ils ne s'entendaient pas, car Hobbes, ce philosophe anglais du XVIIe siècle a dit « L'homme est un loup pour l'homme. » L'homme est un loup pour l'homme. Donc là, déjà, on peut voir que même entre philosophes, il y a déjà cette divergence. Certains philosophes acceptent cette nature pécheresse qu'on a depuis le début. Mais peut-être dans le langage qui était différent. Et avec ce genre de propos, on peut facilement me traiter d'avoir un discours pessimiste. Mais ce n'est pas grave, je l'assume. Car il y a ceux qui veulent entendre des paroles douces, comme celles des faux prophètes d'Israël dénoncées par Jérémie. Ils traitent à la légère le désastre de mon peuple en déclarant « Tout va bien, tout va très bien, alors que tout va mal. » Jérémie 8, verset 11. Et face à cette difficulté, je peux imaginer le découragement d'Ézéchiel. Imaginez quelqu'un qui va être envoyé. Normalement, tu dois recevoir un encouragement, voilà, ça va aller. Mais il le prévient, tu vas voir qu'il y aura des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. À quoi bon d'avoir le zèle d'apporter la parole de l'Éternel vers un peuple à qui on sait déjà comment ils vont réagir? Ils ne vont pas l'accueillir favorablement. Ils préféreront entendre d'autres choses qui les conviennent, dit l'Éternel. Et c'est pour cette raison qu'au verset 1, l'Éternel a dit « Fils d'homme » pour dire qu'avec ta force, tu fléchiras, tu abandonneras facilement. Mais par la suite, il dit dans le texte, « Le souffle de Dieu l'a mis debout sur ses deux jambes. » Une belle image, une image d'encouragement pour dire « Tiens bon, Ézéchiel, ça va être dur, mais c'est moi qui va te tenir, en sachant que cela va être contre toi. » D'ailleurs, dans le chapitre 3, versets 7 à 9, l'Éternel a encore reconfirmer sa parole sur la dureté de la tâche et de sa mission, mais cette fois-ci, il lui donne les moyens d'y faire face. Voici ce qui est dit. « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur. Ce sont des obstinés. » Et la suite, « Je rends ton visage dur face à leur visage. Je rends ton front dur face à leur front. Je rends ton front comme un diamant plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux. Ne sois pas terrifié par eux, car c'est une maison de rebelles. » Oui, je vous assure, je le reconnais, ce n'est pas assez encourageant pour celui qui est envoyé à apporter la parole d'entendre ce genre de propos. Mais la seule consolation ou le réconfort pour le messager dans le texte est quand même présent. Mais assez maigre, voilà ce qui est dit. Mais ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. C'est tout. Vous allez aussi peut-être me dire, mais ce n'est que cela. Ça veut dire quoi? C'est rien du tout par rapport à ce qui se passe devant. Non, c'est justement là que nous nous trompons. Le fait de savoir qu'ils ont un prophète parmi eux, cela leur permet plus tard, peut-être plus tard, quand ils auront besoin de chercher cette parole, à qui se tourner et s'adresser. Et voilà le grand défi qui nous attend aujourd'hui, en 2018, chers frères et sœurs en Christ. Il est vrai que le monde ne veut plus entendre parler de Jésus et de la Bible. Mais faisons tout notre possible pour qu'au moins le monde sache que l'Église de Jésus-Christ est présente dans la société, là, au milieu du village, même si les gens ne veulent plus entendre le son des cloches. Marquez notre présence. Et qu'un jour, qui sait, il y aura quelques-unes ou quelques-uns qui vont faire appel à nous pour entendre cette parole de Dieu. Et ce sera la grande victoire. Quelque part, nous sommes appelés à adopter la persévérance qui se traduit en quelque sorte dans une politique d'usure. C'est-à-dire que nous pourrons les avoir à l'usure. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir l'endurance. Mais d'ici là, il nous faut beaucoup de patience, de persévérance. Alors, comme dans le texte ici, demandant constamment l'Esprit du Seigneur, le souffle de Dieu, pour nous mettre toujours debout. Et c'est ce qui me maintient chaque matin, Seigneur. Mets-moi debout, même si la tâche est lourde. Tiens-moi, je n'ai pas la force. Et soutenons-nous mutuellement, comme les deux amis de Moïse, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ils l'ont soutenu pendant qu'Israël menait la bataille et ils ont gagné. Et qu'un jour, ceux qui étaient farouchement opposés à Dieu diront aussi, « Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut. »